L'actualité des Alpes du Sud et pas de traitement de faveur pour le loto du patrimoine. L'Assemblée rétablit la taxation du jeu de Stéphane Bern.
L'animateur tire à boulets rouges contre le rapporteur général du budget. Il accuse Joël Giraud d'avoir torpillé son jeu de grattage pour sauver les monuments français. 14 millions devraient revenir dans la poche de l'État.
Les avalanches, ce sont les bêtes noires des secouristes.
4 personnes ensevelies sous une coulée blanche à Praloux. Un scénario fictif qui pourrait bien être réel. Médecins, pisteurs et gendarmes se préparent au pire. Ils organisaient mardi un exercice de sécurité, reportage.
La montagne, on en parle aussi côté Hautes-Alpes.
Une société d'économie mixte pour diriger le domaine skiable du Dévoluy ouvrira ses portes demain dès 9h en continu. Et puis, le coup d'envoi aujourd'hui des 14e Olympiades dans les Alpes de Haute-Provence.
Enfin, un petit mot de sport avec les Rapaces de retour sur la glace demain soir.
Fin de la trêve en Ligue Magnus. Les hommes de Luciano Basile voyagent à Amiens pour un match contre les Gothiques. On y reviendra en fin de journal. Mais d'abord, on fait le point météo, Thierry.
Oui, alors éclairci, passage nuageux, se partage le ciel. Aujourd'hui, quelques flocons encore du Lautaret et jusqu'à la Grave. Côté température, 2 à 8 degrés sur le Zap. Ça ira de 7 à 10 sur les Alpes de Haute-Provence. Mais tout d'abord, cette querelle à Paris entre Stéphane Bern et Joël Giraud, voilà plusieurs jours que les deux hommes s'écharpent autour du loto du patrimoine.
Oui, les deux hommes ne partiront pas en vacances ensemble. L'animateur accuse le rapporteur général du budget de torpiller ce jeu de sauvegarde du patrimoine. L'élu haut-alpin a décidé de rétablir la taxation sur ce loto en commission des finances. L'amendement adopté revient donc sur un article voté par le Sénat, article qui exonérait le jeu de grattage de la CSG, de la TVA et des autres taxes habituellement prélevées sur les loteries. Pour Joël Giraud, il fallait donc revenir sur ce traitement de faveur.
C'est un amendement qui vise à supprimer justement l'article qui a été introduit au Sénat avec avis défavorable du gouvernement concernant ce loto du patrimoine. Je rappelle quand même que cet article introduit au Sénat, il exonère de TVA, de CSG et de CRDS les sommes qui sont misées à l'occasion du loto du patrimoine. C'est quand même pour un jeu de hasard une première, moi, qui me semble assez gênante. Je crois très honnêtement que les gens et les Français, peut-être y compris ceux qui sont d'ailleurs dans certains ronds-points, sont plutôt favorables à ce que les gens payent leurs impôts lorsqu'ils ont des revenus. Donc je vous demande la suppression de l'article 16 des sièges introduit au Sénat.
Le rapporteur général de la Commission des Finances et député des Hautes-Alpes, Joël Giraud, qui a d'ailleurs été soutenu par Franck Riester, le ministre de la Culture, a confirmé ce mardi devant les sénateurs la taxation de la loterie à hauteur de 14 millions d'euros. C'est la règle, dit le locataire de la rue de Valois. Sur les 200 millions d'euros de recettes, l'essentiel ira donc aux gagnants. 14 millions terminera dans la poche de l'État et 20 millions seront reversés dans les caisses de la Fondation du Patrimoine. Notez que dans nos départements, 6 sites devraient faire l'objet d'une restauration.
Dans le reste de l'actualité, accident mortel hier matin à Céreste.
À la sortie du village, une voiture a chuté dans un ravin 8 mètres en contrebas de la RD31. La victime, une femme de 35 ans, a été retrouvée coincée sous le véhicule. Elle était décédée depuis plusieurs heures. Selon les pompiers, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident.
Ils doivent se préparer à tout l'hiver en montagne, mais surtout au pire, autrement dit, aux avalanches.
Oui, avant que la saison ne batte son plein, les hommes du groupe montagne de la gendarmerie des Alpes de Haute-Provence, le PGHM de Josier et l'hélicoptère de la section aérienne de Digne-les-Bains ont effectué un exercice ce mardi pour huiler la mécanique. Dans le scénario, une avalanche s'est produite dans un secteur hors-piste de la station de Praloux. Vous vous êtes rendu, Aurore Valory. Les premiers à arriver sur place, ce sont les pisteurs. Ils ont été contactés par un témoin qui a composé le 112.
Oui, et que ça, leur chien. Les pisteurs localisent une victime consciente qui leur fournit de précieux indices.
Selon les dires du témoin, ils étaient quatre, se sont un peu espacés sur la porte.
Et est-ce qu'ils étaient équipés de recherche?
Ils étaient tous équipés d'arma, mais notre témoin, il n'avait pas allumé.
La coulée fait 300 mètres de large, de l'aide est immédiatement demandée au PGHM qui achemine des renforts par hélicoptère. Sur place, les gendarmes repèrent les indices de surface, là un bâton, là un ski, et ils fouillent avec un détecteur de victimes en avalanche ou un RECO pour l'adjudant Dresser.
C'est un appareil qui va envoyer un signal qui se réfléchit sur des objets, et là, à ce moment-là, nous on va avoir un bruit, un signal sur l'appareil qui va nous permettre de définir une zone de recherche qu'on va affiner pour arriver sur les victimes.
Le médecin demande aux pisteurs d'évacuer les victimes. C'est le cas pour l'une d'entre elles transportée sur barquette, tractée par Manon.
On est deux pisteurs pour la conduire. Pour les terrains accidentés, c'est plus facile.
Pour les autres, les premiers soins se font sur place, à genoux dans la neige.
Donc pour la victime 3, un homme en arrêt cardio-ventilatoire, rien au scope, donc un arrêt y compris électrique. Un bouchon au niveau des voies aériennes supérieures. Par contre, une température à 35. Donc du coup, je l'intube, je le ventile. et on continue la RCP.
Le médecin du 10-04, Frédéric Petitjean, est en permanence en contact avec Olivier Schruhofenegger, le commandant des opérations de secours, qui donne les consignes dans un haut-parleur.
Est-ce qu'il y a trois personnels qui peuvent descendre sur moi ?
Trois secouristes sur moi, de la vague du bas. Ouais.
Le gros problème sur une avalanche, c'est les communications. Voilà, donc on est déjà saturé au niveau de la radio avec l'hélico, avec le bas et les personnages. Donc c'est pour ça qu'on prend ça, que tout le monde entende. Voilà. Qu'on sache qu'il y ait un nombre de victimes, qu'il y a un danger objectif potentiel aussi. La zone de recherche, où il faut chercher, dans quel endroit, les directives de travail. La communication, c'est primordial en montagne.
Épaule contre épaule, les secouristes avancent pas à pas avec leur sonde pour retrouver les dernières victimes.
L'alignement est bon ? Sondé, pied gauche, pied droit.
À l'issue de cet exercice, un débriefing a été mené par les secouristes. Des secouristes qui rappellent qu'il faut toujours partir avec un Arva actif.
Le reportage à Pralou pour Alpe 1 d'Aurore Valory. En bref, un homme condamné à 180 jours amende pour avoir dérobé des caisses enregistreuses du Lidl de Sisteron. Une patrouille de gendarmes l'avait aperçu en train de ramasser sur le parking des billets et des pièces de monnaie tombées de son sac. Le contrôle avait alors permis de qualifier l'infraction.
Il l'attendait depuis plus de 10 ans. Et bien, les gendarmes de Saint-Bonnet-en-Champsaur ont enfin une nouvelle caserne.
Ils y ont emménagé il y a déjà quelques jours, mais elle a hier mercredi officiellement ouvert ses portes aux habitants. Alors même s'il reste encore quelques travaux de finition, l'essentiel est opérationnelle. Les militaires acheminent les derniers cartons depuis l'ancienne caserne qui ne va pas manquer aux hommes de l'adjudant-chef Laurent Boursier. Il commande la communauté de brigade de Saint-Bonnet-en-Champsaur. Pour lui, la nouvelle caserne de 270 mètres carrés va permettre de mieux accueillir le public.
C'est carrément le jour et la nuit. Hein. On est passé des années 70 à l'an 2018. Ouais. Alors la différence est très importante hein, dans le sens où l'accessibilité et l'accueil du public, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, hein, d'accueillir les gens dans des conditions décentes, de manière à pouvoir les isoler, les entendre sur les problématiques qu'ils ont. La caserne où on était auparavant a été composée d'uniquement de deux pièces. Donc étant donné que c'est le chef-lieu, toutes les unités Pont du Fossé Saint-Firmin venant chez nous, il y avait une confidentialité quasi inexistante. L'accessibilité n'était pas du tout aux normes. Donc ici, c'est un espace de travail avec un bureau par gendarme hein, pour les 7 personnels qu'on est et un accueil digne de ce nom. Ouais.
Laurent Boursier, donc le commandant de la communauté de brigade de Saint-Bonnet-en-Champsaur. Autre détail notable pour les affaires judiciaires, là encore, tout a été repensé.
Les conditions de traitement dans le cas des affaires judiciaires, des personnes qui peuvent être mises en cause dans nos affaires, elles changent dans le sens où on va les accueillir avec des douches, des toilettes décentes, des cellules bien chauffées, un espace de confidentialité. C'est ça la grosse différence. Avec l'autre caserne, on n'avait pas tous ces équipements. C'était des cellules qui étaient mises à la cave. Voilà, c'est les principales différences. On a un pôle judiciaire et une partie brigade. Donc on peut vraiment s'isoler quand on a des affaires judiciaires dans un secteur où on est tranquille et où la confidentialité est respectée. Ouais.
Voilà, l'adjudant-chef Laurent Boursier.
On ouvre le volet politique à présent, Quentin, avec deux élections partielles dans les Hautes-Alpes.
Après la démission du maire, de deux de ses adjoints et de quatre conseillers, les habitants de La Saulce se vont devoir choisir une nouvelle équipe municipale. Même chose à Mont-Dauphin. Là, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes après les démissions consécutives de trois conseillers et surtout après la disparition de Gilbert Fiorletta. L'ancien maire est décédé le mois dernier des suites d'une longue maladie. Pour les deux communes, les votes se dérouleront le dimanche 3 février 2019 et le 10 février en cas de second tour. Notez que les déclarations de candidature devront être déposées du lundi 14 au jeudi 17 janvier 2019 pour le premier tour et les mardis 5 et mercredi 6 février 2019 en cas de second tour à la préfecture.
Ils seront peut-être les éleveurs de demain. 60 élèves de 16 à 24 ans issus de 6 établissements d'enseignement agricole, dont ceux de Carméjane et du Chaffaut Saint-Jurçon, s'affronteront aujourd'hui, jeudi, lors de la 14e Ovimpiade dans les Alpes de Haute-Provence.
Un concours pour découvrir le métier d'éleveur de brebis, alors que dans les 15 prochaines années, 61% des éleveurs de brebis allaitantes et 39% des éleveurs de brebis laitières partiront à la retraite. Ce sont près de 10 000 emplois qui seront offerts à la jeunesse dans la prochaine décennie. Rémi Lecomte fait partie de la maison régionale de l'élevage à Manosque. Il explique les 7 épreuves qui attendent tout au long de cette journée les candidats.
Il y a une épreuve qui consiste par exemple à parer les pieds d'une brebis, c'est un petit peu sa manicure. Il y a une épreuve qui consiste à trier les brebis en différents lots dans un couloir. Il y a une épreuve qui consiste à évaluer l'état de santé d'une brebis. Il y a une épreuve qui consiste à évaluer l'état d'engraissement des agneaux avant de les vendre, par exemple. Une épreuve qui consiste à manipuler et évaluer l'état corporel d'une brebis. Et il y a aussi un quiz de reconnaissance de race et un quiz de connaissances théoriques du métier. Ben moi, je pense qu'un candidat qui participe, déjà, il participe parce que la plupart ont envie de gagner. Et puis, ça leur apporte une découverte du métier d'éleveur. Et voilà, à travers tous ces gestes techniques, en général, ils se préparent bien au sein de leur établissement. Pour eux, la journée, c'est aussi l'occasion de rencontrer des éleveurs et des techniciens d'élevage et d'échanger autour du métier d'éleveur.
Des propos recueillis par Cyril Michard. Notez que les deux candidats arrivés en tête du classement de la finale auront la chance de conquérir le titre de meilleur jeune berger de France 2019. Ce sera lors de la finale nationale face à 36 autres candidats. Ce sera le samedi 23 février prochain lors du Salon international de l'agriculture.
Le domaine skiable du Dévoluy va ouvrir en continu à partir de demain matin à 9h. Alors, petite nouveauté, Quentin, cette année, le domaine sera géré par une société d'économie mixte.
Oui, depuis le 4 décembre dernier, la SEM Dévoluy a pris les rênes de la station officiellement. Elle a mis près de 4 millions d'euros, 3,8 très exactement, sur la table pour racheter les parts détenues par le désormais ex-exploitant Molin. Dans cette société d'économie mixte, donc, la commune du Dévoluy possède 60% des parts, la Caisse des dépôts 30%, la Banque Populaire 5 et la Caisse d'épargne 5% aussi. Laurent Hélène est le représentant de la SEM Dévoluy à la présidence de Dévoluy Ski Développement.
La SEM, c'est d'abord une entreprise privée, donc qui se doit d'avoir du résultat, parce qu'une entreprise privée en déficit ne dure pas très longtemps. À la nuance d'une entreprise totalement privée, avec des capitaux à rémunérer, ben voilà, elle, son résultat, prioritairement, elle le remet dans l'outil, puisque voilà, c'est là où l'aménagement du territoire, comme je le disais, prend son sens.
Alors, pour les prochaines années, la priorité sera d'investir dans la neige de culture, Laurent Hélène.
Le premier diagnostic qu'on fait dans le Dévoluy, c'est qu'effectivement, on a besoin d'optimiser la ressource en eau, de produire vite. On préflèche dès l'année prochaine un investissement qui se situera entre 1,5 million et 2 millions d'euros pour rénover l'installation, la renforcer sur certains points, changer sans doute un peu de canon à neige dans neigeur. Voilà. Donc ça sera une priorité. Ça sécurise notre chiffre d'affaires, c'est évident. Ensuite, vous avez sans doute entendu parler du TSS du JAS, puisque celui-ci arrive avec des échéances à court terme, des coûts de maintenance qui sont importants. Il faudra se projeter sur l'opportunité de son renouvellement, c'est certain. Mais il faudra le voir dans un contexte un peu plus... Enfin, en tout cas, sur un périmètre un peu plus large que le strict appareil. C'est qu'est-ce qu'on fait une fois en haut? Est-ce qu'on a des zones ludiques, des chemins piétons? Est-ce qu'il y a une tyrolienne, une luge? Enfin, voilà, c'est comment on va agrémenter aussi cet outil.
Alors, on retrouvera Laurent Hélène tout à l'heure avec Olivier Milleville. Ce sera à 7h30 dans près de chez vous. Direction Briançon, le marché du mercredi et du dimanche va retrouver son emplacement initial.
Oui, il va revenir dans l'avenue du 15-9, indique la mairie. Il avait été déplacé place Galice B et dans la rue centrale en raison des travaux. Retour à la normale donc prévu pour ce dimanche.